problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais meilleur buteur. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, François Pinet.
Bonsoir à tous, l'after jusqu'à minuit avec ce soir Jonathan McCardy. Salut Jonathan.
Salut les gars.
Damien Perrinel est là, salut Damien.
Bonsoir tout le monde.
Et François Manardeau.
Bonsoir les amis, bonsoir.
En pleine forme, 23h minuit, l'after ce soir avec une info RMC Sport. Pour commencer, on parlera du Hertha Berlin qui veut absolument recruter Lucas Touzard, supporter de Lyon. Est-ce que pour 25 millions d'euros, vous laissez partir votre milieu de terrain? Voilà la question qu'on vous pose, vous venez de dire. Au 32-16, on a des infos à vous donner sur le Hertha Berlin qui s'intéresse aussi à un joueur du PSG. D'ailleurs, on parlera du PSG dans 15 minutes puisque la nouvelle pépite du foot norvégien, Haaland, a signé à Dortmund, futur adversaire des Parisiens en Ligue des Champions. Est-ce que le PSG doit s'inquiéter?
Oh là 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 là, la question putaclic, pardonnez-moi.
Pourquoi
mais...
Il a 19 ans le gamin, il a le lait qui coule du nez, tu veux t'inquiéter
On va demander aux supporters du PSG, 32-16, le hashtag RMC Live si vous voulez réagir.
Demandons.
Et puis on demandera aussi à Sophie Serbini qui suit le foot allemand, qui est une spécialiste du foot allemand et qui nous dira si ça va vraiment renforcer cette équipe de Dortmund dont on dit qu'elle a plus de problèmes défensifs. Donc on verra si la venue de Haaland est un plus ou non. Et puis la vidéo encore au cœur des débats aujourd'hui, malheureusement en Première Ligue. On reviendra aussi sur la victoire de Liverpool, celle de Chelsea face à Arsenal et la victoire de Manchester City face à Sheffield 2-0. On sera avec Julien Laurence dans trois quarts d'heure environ. Mais d'abord, donc cette info RMC Sport, messieurs. Le Hertha Berlin qui veut absolument recruter Lucas Touzard. On vous parlait d'une offre à 20 millions d'euros il y a quelques jours. Eh bien, le club allemand, qui est entraîné désormais par Jürgen Klinsmann, a augmenté son offre à 25 millions d'euros. Le Hertha qui est même prêt à quasiment tripler le salaire actuel de Lucas Touzard pour le faire venir. Actuellement, il est à peu près à 2 millions d'euros par an, Lucas Touzard, donc il pourrait être autour des 6 millions. Est-ce que l'OL doit lâcher son milieu de terrain alors que Lyon doit recruter à pas mal de postes avec les blessures de Depay et de Reine Adélaïde? Supporters de Lyon, on vous attend au 32-16. Messieurs, est-ce que à 25 millions d'euros, vous êtes Lyon, vous lâchez Lucas Touzard?
Tu nous rappelles juste l'âge de Lucas Touzard?
Il a 24 ans.
Non.
22 ans.
Non. Si? Il a 22 ans.
Non mais même.
Bah, peut-être alors.
Non mais non. Non, tu le lâches pas.
Pourquoi?
Bah parce que c'est un des maillons essentiels. C'est un maillon très important. Très
un point pour Damien. Bravo.
Voilà, ça a commencé le quiz. Une heure de quiz. C'est un maillon essentiel de cette équipe lyonnaise. Il a été titularisé 16 rencontres. Il fait la paire avec Thiago Mendes et pour 20, pour 30, allez peut-être à 40, tu commences à réfléchir. Lyon a réussi cet été à engranger beaucoup de sous. Ils ont pas besoin en plus de ces 25 millions d'euros. Ils ont quelques sous aussi en plus avec leur parcours en Ligue des Champions. J'estime ça à peu près autour de 10 millions d'euros avec le bonus de la qualification pour les huitièmes de finale. Donc financièrement, ils sont pas dans le besoin. Sportivement, ils ont des soucis. Je vois pas pourquoi ils lâcheraient un mec comme Touzard.
Parce que peut-être que tu estimes qu'à 25 millions d'euros, tu n'auras pas une offre comme ça pour lui.
Attends. Lucas Touzard est quelqu'un de très sympathique. C'est un joueur qui rêvait très jeune à l'Olympique Lyonnais, à qui on prédisait un très bel avenir, qui n'a jamais vraiment confirmé au-delà de ce qu'on attendait de lui. Une des premières paroles de Juninho lorsqu'il arrive en conférence de presse, c'est de dire qu'au milieu de terrain, devant la défense, il veut un joueur qui sache un petit peu mieux jouer au ballon.
Que lui.
Qui sache faire plus de choses.
C'est vrai.
La vérité du niveau de Lucas Touzard, c'est que c'est un joueur très moyen, qui n'a pas le niveau d'un Olympique Lyonnais qui se veut être conquérant, qui veut reprojouer les premiers rôles en Ligue 1, qui veut avoir sa place sur la scène européenne. Je l'aime beaucoup, Lucas Touzard. Il est très sympa. Ne démérite pas dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans l'engagement. On n'a rien à lui reprocher. Mais à 25 millions, un supporter lyonnais, il prend sa bagnole, il paye lui-même le plein et il l'amène là-bas.
et tu le remplaces par qui?
Non, mais voilà.
Et là, et voilà. Non, maintenant, mais... et après, là, c'est là où il faut être malin. C'est qu'avec 25 millions, ça te laisse quand même, sur un poste de numéro 6, ça te laisse quand même des possibilités de recrutement qui sont quand même assez importantes.
Toi, c'est là où je rebondis. Là où il faut être malin. Mais justement, en fait, un club, normalement, lorsqu'il fait, il a une cellule de recrutement, il anticipe toutes ces choses-là. Ça veut dire que normalement, tu as déjà une liste de milieux de terrain défensif dans le profil de Lucas Touzard ou de ce que tu cherches d'autre, qui peut remplacer en cas d'offre exceptionnelle. Je sais pas s'ils en sont là ou s'ils peuvent, ils vont agir dans la précipitation. Mais après, Lucas Touzard, comme l'a dit François, le problème, c'est que aussi bien avec Silvinho, qui n'était pas spécialement fan de ce profil de joueur, qu'avec Rudy Garcia, il joue tout le temps.
Et Juninho, qui n'était pas fan, parce que c'est Juninho qui dit qu'il n'a pas besoin de lui. Il jouait quand même. Trouver quelqu'un d'autre.
Il jouait quand même.
Jusqu'à présent, la vista de Juninho en tant que directeur sportif de l'OL, on attend tous de voir. Après,
et bon, c'est pas le plus mauvais depuis le début de la saison.
Non, pas médiocre. Pas médiocre. C'est un joueur qui est moyen.
Un joueur moyen.
Non, mais dans ses performances, c'est pas le plus mauvais.
Non, j'ai jamais dit ça, mais je pense qu'il est limité.
Et même s'il refuse cette offre, je pense qu'ils peuvent le regretter plus tard, certainement. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est dur de le lâcher s'ils
ont quand même son remplaçant dans l'effectif, je pense. Je pense qu'à la base, on s'attendait tous à voir Thiago Mendes jouer devant la défense. Ça n'est pas arrivé beaucoup. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et je pense qu'on pourrait faire la corrélation entre ses performances qui sont un petit peu moyennes et le fait qu'il joue un petit peu plus haut sur le terrain. Pour moi, le rôle idéal de Mendes, ça serait de le mettre à la place de Lucas Touzard devant la défense. Et avec les 25 millions d'euros que t'as, soit tu prends un milieu de terrain relayeur, soit tu prends un numéro 6, parce qu'au final, t'auras plus que Thiago Mendes si tu le redescends d'un cran. Mais 25 millions pour Touzard, c'est inespéré et faut le faire parce que Lyon n'a pas non plus des finances illimitées. Lyon est sous le coup du fair play financier. Lyon a consenti des investissements assez importants cet été, hein, les achats de Mendes, du petit latéral. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés et ça peut te permettre de faire un très beau coup sur le marché des transferts. On entendait qu'ils étaient intéressés par Steven Zonzi. Steven Zonzi, écoute, si t'arrives à vendre Touzard 25 millions,
tu vends Touzard, t'es bien. Tu prends Zonzi et tu penses que
il en manque encore un.
Tu fais une bascule et financière et sportive.
Oui, mais t'as pas ce joueur technique que tu veux au milieu de terrain.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans un recrutement comme ça. C'est-à-dire que là, t'as tes deux blessés, tu joues en 4-2-3-1 pour mettre Memphis derrière l'attaquant en 10. Aujourd'hui, t'as plus Memphis.
Il va le changer.
Tu vas changer.
Il va jouer en 4-3-3.
Peut-être que t'as plus besoin d'un Lucas Touzard, tu as peut-être besoin de lui encore plus. Voilà, en fait, il y a tellement de choses à faire.
Si je joue en 4-3-3, Damien, le milieu, tu peux très bien faire mieux avec Thiago Mendes devant la défense.
Avoir
plus haut. Et après, tu mets soit Jean-Lucas, soit Cacré. Moi, Cacré, par contre, je pense que ça va devenir un très, très bon joueur.
Thiago Mendes, ils ont essayé devant la défense.
Ouais, deux matchs.
Ouais, mais il n'a pas eu les performances.
Parce qu'il faut lui laisser le temps de l'adaptation, nouveau club, etc. Je suis toujours convaincu que c'est un bon joueur et que le joueur qu'on a vu à Lille n'a pas disparu. Même si pour l'instant. Et je trouve qu'il monte en puissance. Après, franchement. C'est une question d'opportunité. Touzard 25 millions, mais ça me semble, mais c'est incroyable.
Non, mais c'est vachement bien, Touzard. Attends, Touzard à 25 millions, quelque part, c'est bien, mais par qui tu le remplaces
ça.
Dans ce marché-là, qui est un marché d'ajustement,
si tu prends
Steven Zonzi. Steven Zonzi,
je trouve très bien.
Galatasaray.
Tu as déjà besoin de trois joueurs titulaires. Ils veulent trois joueurs titulaires. Ils veulent un mec devant, un arrière-gauche et un milieu.
Ouais, donc, avec 25 millions, ça peut peut-être aider.
Ça veut dire qu'il t'en faut quatre maintenant.
Il y a peut-être d'autres postes où il y a plus d'urgence.
Un défenseur qui va partir avec Marcelo, ça fait 5 joueurs.
Tout à l'heure, tu as dit la chose la plus importante, c'est-à-dire il faut normalement un club bien structuré, aurait déjà anticipé, aurait déjà sa liste. Non. Et moi, je pars du postulat que cette liste, ils l'ont. Et même si cette liste, ils ne l'ont pas, je suis désolé, les gars, mais 25 millions pour Touzard, que je crois que j'ai vu tous les matchs de Lyon cette saison. Franchement, c'est pas un très bon joueur, quoi, les gars.
Du coup,
c'est un joueur moyen.
Dans un
Lyon moribond qui est mauvais, qui est médiocre, oui. Mais si Lyon aspire à mieux. Non, mais bien sûr que non, parce que tu peux jamais rien lui reprocher dans l'état d'esprit, dans la mentalité. Mais en termes de niveau pur, François, on est d'accord.
Non mais après c'est pas le joueur technique.
Non, bah, je sais qu'il regarde bien la Ligue 1.
Non mais parce que c'est pas le joueur technique que toi tu aimes voir.
Non, moi j'adore les bouchers.
Moi je trouve ça assez dur de aujourd'hui taper sur Lucas Touzard en disant qu'il n'a pas le niveau de Lyon quand on voit les performances de Lyon actuellement. C'est un des joueurs qui a sa place dans le 11 de Lyon.
C'est pas ce que j'ai dit.
Bah si, tu dis, il a pas le niveau pour aller.
J'ai dit,
il a pas le niveau pour aller au.
François, je suis d'accord avec toi.
J'ai dit, Lucas Touzard n'a pas le niveau d'être titulaire dans un Lyon qui ambitionne de jouer les trois premières places en Ligue 1 et qui ambitionne d'être un club qui compte sur la scène européenne. Dans ce Lyon-là, qui est moribond, qui a pris un entraîneur, passons.
Mais pour toi, par exemple, Toulalan qui jouait dans le Lyon qui gagnait.
C'est autre chose.
Oh non,
c'est autre chose.
C'est autre chose, là.
Toulalan, en termes de. C'est quand même.
Ah,
en termes de technique. technique.
En volume
mais
de jeu,
de la technique.
Tu parles de technique.
On s'en fout.
Parce que tu parles d'un joueur qui n'est pas de niveau technique.
Moi, devant la défense, je m'en fous que le joueur soit technique. J'aime bien les boucher. Mais tout l'allant, en termes d'intelligence de jeu, dans ses placements, dans ses gestions des transitions, c'était un super joueur.
Dans le jeu long aussi. Non, non, tout là.
Techniquement, vous êtes dur.
Tout, c'est 40 sélections à peu près. Attends, Touzard, il a pas effleuré une sélection.
Je pense que tout l'allant, il était pas si faible techniquement que ça déjà.
Ah non, je suis pas faible.
Je dis pas faible, mais bon.
Non. Et je te dis pas que Touzard est faible techniquement. Je te dis juste que dans un Lyon qui a plus d'ambition, non. Et surtout, c'est l'opportunité. 25 millions. Alors, c'est le prix. C'est le prix de Thiago Mendes.
Tu parles de Touzard. Touzard, il arrive à Lyon à 23 ans.
Ouais.
Et bah aujourd'hui, tout le monde a 22 ans.
Mais ça fait 3 saisons qu'on le voit.
Il peut encore progresser. Ouais, bon. Ouais, effectivement, 25 millions de points. Deuxième point pour Damien ce soir.
Non, mais le tout l'allant du FC Nantes, il est supérieur au Lucas Touzard.
Peut-être, d'accord. Oui. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'on se focalise sur Touzard parce que ça fait longtemps qu'il est là, comme tu dis. On voit pas une marge de progression exceptionnelle sur ce mec-là. Après, si tu dois cocher 3 noms sur le début de saison, moi je pense qu'il est dans des 3 meilleurs joueurs.
C'est ce que je t'ai dit le contraire. Moi je t'ai dit que c'est un joueur, on peut rien le reprocher.
C'est un de tes 3 meilleurs joueurs.
Rien le reprocher, mais à 25 millions d'euros, je pense pas qu'il y aura une autre offre qui arrive à
côté. 23h06 dans l'after, on est en train de parler donc de cette info RMC Sport, Hertha Berlin qui a fait une offre de 25 millions pour Lucas Touzard. Et on va demander aux supporters lyonnais justement ce qu'ils en pensent, parce que c'est un joueur qui divise quand même les supporters de Lyon. Pierrick est avec nous au 32-16. Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Salut Pierrick.
Alors, est-ce que toi, à 25 millions d'euros, pas pour toi bien sûr, mais
parce que tu,
effectivement, tu vends Touzard si ça vient dans ta poche, je te comprends et on est tous d'accord avec toi. Mais est-ce que Lyon doit vendre Touzard pour 25 millions d'euros cet hiver?
C'est compliqué à dire parce que on ne sait pas qui on pourrait avoir à sa place, mais ouais, je pense que 25 millions, faut le vendre. C'est inespéré comme offre et c'est plus que ce qu'on a eu pour Fekir. Oui. Fekir quand même. Voilà. Et puis moi,
la durée du contrat était moins longue pour Fekir.
Oui, ouais, c'est sûr, mais bon, c'est quand même Fekir qui était champion du monde, enfin qui est champion du monde et tout, même s'il a pas énormément joué, il a quand même ce statut-là, qui devait partir pour 60 millions l'année précédente. Donc bon, et puis enfin bref, le 25 millions pour Touzard, c'est inespéré, faut sauter sur l'occasion. Le remplaçant, je pense qu'ils l'ont trouvé avec Cacré, parce que c'était pas quelqu'un qui rentrait, je pense, dans les plans de Silvinho et de Garcia, et qui au final joue et même plutôt bon. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le...
Ah si, Pierrick. Moi je suis d'accord, 25 millions, faut se sauter sur l'occasion, mais faut recruter. Tu peux pas mettre tout.
Pas donner ça sur les épaules d'un
voilà.
Gamin.
En fait, il a 19 ans. Il est en pleine progression, Cacré. Il faut surtout bien le gérer.
Mais tu vas le cramer dans le mettre dans ce Lyon, dans cette situation-là. Et plus que
surtout à ce poste-là.
Et puis c'est le 8e contre la Juve qui se profile.
Même si ça
joue un peu plus haut. Il joue plus haut.
Ouais, mais si Mendes joue plus bas et que tu vois Cacré.
Oui.
Il était pas vraiment pas prévu dans la rotation. Et là, il arrive. Bon, c'est vrai qu'il est, on va pas en faire un titulaire, mais si ça se trouve, un remplaçant de Thiago Mendes ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il peut vraiment avoir plus de temps de jeu sans en faire un titulaire et remplacer numériquement Touzard. Ouais. Sans jouer dans un 4-2-3-1, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Ça peut être aussi une solution et garder les 25 millions d'euros pour les réinjecter dans des transferts pour remplacer ce coup-ci Memphis et Reine Adelaide, parce que là pour le coup il va falloir trouver des vrais bons remplaçants parce que sans eux c'est clairement pas la même histoire quoi.
Ouais, je pense qu'un mec devant la défense tu peux trouver
des titulaires, ouais, il faut
des titulaires mais je pense que le mec devant la défense tu peux en trouver un assez facilement.
Oui, bon, on verra, mais ils en ont pas trouvé cet été.
Si ils ont pris Thiago Mendes qui était censé jouer à ce poste-là.
Oui.
Ils ont fait l'investissement là-dessus. Franchement, je vais me répéter, mais si tu vends Touzard 25 millions et tu prends 11 millions après pour faire les 6 mois pour éviter de vivre essayer de sauver ta saison, t'es pas mal.
Ok. Merci beaucoup Pierrick. Merci d'être passé dans l'after. On continue de parler de Lucas Touzard. On va prendre Lilian, supporter de Lyon également. Salut Lilian.
Ouais, bonsoir.
Salut Lilian.
Salut Lilian.
Ça va bien. Et toi?
Bon. Oui, bah, très bien, ouais, ça va.
Comme Rudy Garcia, t'es content que 2019 se termine pour l'Olympique Lyonnais.
Voilà. J'ai pas entendu ni le prénom ni le nom que tu viens d'évoquer.
Ah pardon.
Bah tu sais, Lilian, c'est lui qui va faire que Touzard parte et qui va te ramener Grégory Sertich à 300 000 euros par mois.
Non, arrête,
il veut passer des bonnes fêtes.
Moi, je pensais que l'After, c'était une émission sérieuse. Finalement, je suis déçu.
On peut être caustique un peu. Il est caustique.
Ouais, après, voilà.
Non, bon, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, pour Touzard, à 25 millions d'euros. Je veux dire, il y a eu une première offre à 20 millions. Je me suis déjà posé la question. Je me disais que, c'était bien payé par rapport au rendement du garçon. Non pas que ce soit un mauvais footballeur, parce que c'est pas le cas. C'est un bon joueur de ballon, mais c'est un club qui ambitionne comme la troisième place de Ligue 1, qui va jouer la Juventus en huitième. Il n'y a pas assez de rendement, je suis désolé. Il joue pas assez, il est trop irrégulier en fait. Moi, ce que je lui reproche, c'est surtout ça. C'est vraiment être irrégulier.
Ce qui est normal peut-être pour un joueur de 22 ans.
Le problème, si on avait un entraîneur d'aplomb à la tête de cette équipe, je tiendrais certainement pas le même discours. Or là, c'est pas le cas. Donc, si les gars se prennent pas en main eux-mêmes, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je pense plutôt qu'un Thiago Mendes devant la défense, comme ça, ce garçon, il a pas pu perdre son potentiel.
C'est ce qui était prévu. Hein.
Moi, j'y crois pas. Oui, c'était prévu à l'origine comme ça. Maintenant, je pense sincèrement que Mendes va faire le taf. Mais il faut qu'il trouve sa place, il faut qu'il s'y habitue.
Tu trouves quelqu'un d'autre quand même, Lilian? T'es d'accord?
Oui, il va falloir.
Sinon,
oui, mais alors
tu peux
après,
pas jouer avec Thiago Mendes toute l'année, t'as aucun remplaçant, t'as rien.
C'est vrai,
pas de profondeur derrière.
C'est pas le but de mon propos, c'est simplement que, si tu veux, il parle de Nzonzi. Bon, Nzonzi, pour un semestre, ça peut faire le taf, non?
Je suis pas convaincu du tout par Nzonzi. Par ce Nzonzi-là, moi.
Par rapport à l'équipe d'aujourd'hui?
Enfin, je sais pas ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous en sortir et avoir une chance de passer contre la Juve, je vois pas en quoi Steven Nzonzi.
François, quoi qu'il arrive, il y a aucune chance de passer contre la Juve, on est bien clair.
On ne sait jamais dans le football.
Aucune. Après, voilà.
Il y a 9 chances sur 10 pour la Juve, mais dans le foot, Jonathan.
De faux témoins à malentendu pour qu'on
parle. Et puis, je te rappelle que l'entraîneur, c'est Rudy Garcia qui est habitué à se prendre des tolls en Ligue des Champions et qui ne gagne pas un match contre une grosse équipe.
J'ai pas entendu ce que tu viens de dire.
J'ai dit, je te rappelle que ton entraîneur, malheureusement, c'est Rudy Garcia. C'est ton entraîneur, un entraîneur qui gagne jamais contre les gros, tu sais.
Juste Lilian, tiens, il y a des idées de supporters marseillais sur l'appli RMC Direct Studio. Lyon a récupéré. Tu vas rigoler. Samir qui nous dit Lyon a récupéré Garcia et vole un joueur devant la défense.
Trottmann.
Exactement,
Trottmann. Les deux,
Pour Cassien, qui doit être aussi un supporter de l'OM, il dit avec les 25 millions, ils peuvent nous prendre Trottmann sans problème.
Ah, j'aurais parié 2 mois de salaire là-dessus.
Ah, mais Trottmann, sans souci. Et en plus, on l'offre, Grégory Sertich. C'est pas mal, ça t'en fait deux.
C'est clair. Ils peuvent nous brancher, les Marseillais, parce que franchement, le choix de Rudy Garcia, là, je crois que je m'en remettrai pas de ça.
Je croyais que tu voulais pas dire son nom.
C'est terrible, ce mec.
Pour rebondir sur le transfert, quand même, ce qui est sûr, c'est les cordons de la bourse, hein, généralement, c'est Jean-Michel Aulas. Donc, si financièrement il s'y retrouve, il acceptera le deal. Mais après, pour le remplacer, ce qui va être marrant, c'est de voir la lutte d'influence qu'il y aura entre un Silvinho et un Florian Maurice. Et de voir qui aura Juninho et Florian Maurice. Et celui qui aura le dernier mot sur le choix.
Je pense que le dernier mot, là, maintenant, malheureusement, tout nous laisse à penser que ce sera Jean-Michel Aulas.
Oui, Aulas, Maurice.
Ce sera Aulas, le binôme Aulas-Maurice. Et alors, il y a juste un souhait que j'ai pour le milieu de terrain lyonnais. Parce que franchement, je comprends pas vraiment. Alors peut-être que tu peux nous éclairer, Lilian. Moi, à chaque fois que j'ai vu Jean-Lucas jouer, à part 2-3 fois où il s'est troué, mais c'est normal, il est jeune, je l'ai trouvé intéressant. Et je suis surpris de pas le voir plus aligné.
Bah, c'est absolument incompréhensible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que c'est un jeune joueur. Il vient en plus du Brésil. Laissons-lui le temps quand même de s'adapter, au même titre qu'un Thiago Mendes. Parce que encore une fois, Thiago Mendes, moi j'y crois. Après, tu peux faire un doublon. Ce Jean-Lucas, faut le laisser venir. Moi, perso, je le connais pas. Je l'ai vu jouer. Il s'est déchiré une fois ou deux. Mais après, bon sang, il faut leur laisser le temps d'adaptation.
Il a du ballon, hein.
Il a du ballon déjà. Et puis quand tu prends un mec comme, il y a des choses qui me paraissent incompréhensibles dans cette équipe. Je veux dire le jeune Jeff Reynaldelaïd, il débarque chez nous. On sait que c'est un joueur qui a du ballon, qui a du coffre, etc. il joue pas, il rentre pas, il joue un quart d'heure, il joue 20 minutes, il ressort, machin. Enfin, il y a des choses quand même où il faut se poser des questions. Au-delà de l'effectif, il faut vraiment que Jean-Michel Aulas se pose les bonnes questions sur ses choix.
Lilian, je suis d'accord avec toi, parce que tout le monde dit, oh, Jeff Reine-Adélaïde, oh, la grosse perte pour l'OL et tout. Et là, comment on va faire l'OL pour jouer sans lui? Mais c'est exactement ça. Il a été trop rarement sur le terrain pour vraiment donner sa pleine mesure. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Jeff Reine-Adélaïde, t'as perdu un remplaçant.
Il commençait quand même à.
Ouais, mais il jouait pas beaucoup. Ouais.
Si je parle pas de
la qualité du joueur, attention.
Je parle de Jean-Lucas, qu'on a envie de voir, et que Jeff Reine-Adélaïde, on l'a vu comme un intermittent du spectacle. Je préfère l'intermittent que Jean-Lucas, moi.
Je dis pas le contraire. Moi, je parle des choix qui ont été faits à mettre sur le terrain.
C'est pas le même poste.
C'est pas la qualité du joueur.
C'est pas la même expérience. Jeff Reine-Adélaïde, il connaît déjà la Ligue 1. Jean-Lucas, il vient, il débarque d'un nouveau continent. C'est un bon joueur, franchement. Les fois on l'a vu, tu te dis ça demande à être revu, et malheureusement il est utilisé que trop sporadiquement. Bon, après là pour l'instant on fait le point. Admettons que Touzard parte, t'as Thiago Mendes, Cacré, Aouar et Jean-Lucas, ça fait 4. Il te manque juste une sentinelle, je pense, pour être bien. Tu prends une sentinelle si Touzard part, parce que pour moi, de toute manière, au milieu de terrain, si tu gères intelligemment les joueurs que t'as à ta disposition, tu peux t'en sortir avec 5.
Bon. Bon, merci Lilian. Merci beaucoup Lilian d'être passé sur RMC et bonne deuxième partie de saison avec l'Olympique Lyonnais. On continue cette info à RMC Sport parce que décidément le Hertha Berlin veut investir. En plus de
Lucas Touzard, on est en train de les prendre pour des gros cons Klinsmann et Bertha.
Non mais là ils ont aussi des vues sur un autre joueur de Ligue 1. C'est ce qu'on peut vous dire ce soir. C'est un joueur du PSG. Draxler. Exactement. Ouais. Le directeur sportif du Hertha Berlin qui est venu au renseignement auprès de Leonardo. Pour l'instant il n'y a pas d'offre, mais c'est un profil qui intéresse le Hertha Berlin. De la même façon, on va parler du PSG dans un instant, mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont intérêt, le PSG, à lâcher Draxler?
Ça ne serait pas une grosse perte.
Alors, effectivement, c'est le 21e joueur du PSG en termes de minutes jouées cette saison.
Il n'a jamais vraiment...
26 ans.
Il n'a jamais vraiment confirmé, il n'a jamais montré le niveau qu'il peut afficher en sélection nationale. J'ai eu quelques espoirs quand... je crois que c'était Emery qui avait commencé à l'aligner, un peu plus bas, milieu relayeur. Ouais. Je trouvais que c'était intéressant. J'avais l'impression qu'il pouvait faire une Chouaigny.
Il avait fait un gros match contre le Barça, fameux 4-0.
Exactement. Chouaigny avait commencé ailier, puis avec ses qualités, etc., repositionner plus bas, c'était intéressant. Moi, je pense que Draxler, c'est trop inconstant, c'est trop léger, c'est dans la tête pour un club comme le Paris Saint-Germain qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Donc, pour le joueur, oui, faut partir parce qu'il y a quand même l'Euro à la fin de l'année. Il faut qu'il prenne du rythme et on sait que le compte quand même beaucoup sur lui. Et pour le PSG, ça sera pas une très grosse perte.
La grosse déception avec Draxler, c'est, j'ai cru qu'il allait avoir un tournant au bout d'un moment, c'est quand il était capitaine de l'Allemagne en Coupe des Confédérations, où on sentait vraiment qu'il avait pris une envergure de leader au sein de cette équipe, de cette jeune équipe d'Allemagne à cette époque-là, parce que justement il y avait le renouvellement imposé par Joachim Löw. Et finalement, non, c'est désespoir, espoir déçu. Et franchement, là, sur le terrain, c'est un beau joueur. Il est beau, il est grand.
Il est élégant, c'est vrai.
Mais il ne sait pas se faire mal, quoi. Il va pas se faire mal. En fait.
Et il n'a pas confirmé ce qu'on avait vu de lui à Wolfsburg et dans ses premiers mois au PSG. Comme ça va très très vite dans ce club-là, quand tu me parles de la Coupe des Confédérations où il est effectivement très convaincant, sauf que quand il rentre en France, le Paris Saint-Germain recrute Neymar et qu'il y a une concurrence après qu'il ne peut pas affronter aussi bien, je pense, mentalement que dans son football. C'est-à-dire que la barre a été montée un peu plus haut que ce qu'il peut donner. Donc, il retourne au pays à 6 mois de l'euro. Oui, moi, je trouve que c'est bien à la fois pour le PSG s'il récupère un billet là-dessus, puis c'est bien pour le joueur. Parce que maintenant, c'est un joueur de rotation. Ouais.
Et puis, c'est pas un bon joueur de rotation. Parce que, il est pas fait pour être un joueur de rotation. Si tu voulais vraiment le valoriser, faudrait lui offrir du temps de jeu, lui faire confiance, le laisser titulaire. Au contraire. Dans Sarabia, qui pour moi est le joueur parfait pour PSG.
Pour rentrer en jeu, c'est
ça. Et à chaque fois que tu fais appel à lui, il est présent, bonne mentalité, il donne tout. Il faut plus de joueurs comme Sarabia que de joueurs comme Draxler.
Il sait tout bien faire, Sarabia. Ouais. Il sait tout bien faire. Pas de manière extraordinaire, mais il sait tout bien faire. Draxler, il a des fulgurances. Et ces fulgurances, elles se sont étiolées au fur et à mesure que les saisons parisiennes. Ouais.
Ça me fait penser un peu à Javier Pastore qui avait un talent comme ça.
Un peu moins talentueux.
Attention, bien sûr. Je les compare pas sur le talent. Je pense qu'effectivement Pastore est au-dessus, mais dans la façon de s'éteindre un peu face à une concurrence qui est trop forte pour lui.
Parce qu'il a le talent.
Il a vu, on l'a montré en équipe d'Allemagne, effectivement. Donc il a du talent. Il a beaucoup de talent, ce garçon. Mais effectivement, dès qu'il y a une concurrence. Il a du mal à se battre pour gagner sa place.
Sans que ce soit un dynamiteur de défense, je pense que son vrai poste, c'est celui qui tenait à Wolfsburg, c'est
sur un côté.
C'est sur le côté, ouais. Pas milieu relayeur. À un moment donné, on le met milieu relayeur.
Ah ouais, je l'aimais bien comme ça.
Parce que,
je trouvais qu'il apportait quelque chose.
Il a pas pour moi physiquement déjà l'abattage suffisant. Alors il a la touche technique.
Ouais.
Mais je pense qu'il est meilleur et quand il est très très bon contre Barcelone sur le fameux 4-0, il est vraiment sur un côté. Mais bon, Neymar n'était pas là.
Voilà. C'était une période où Neymar n'était pas là. Donc n'hésitez pas sur le hashtag AMC Live. Si vous êtes supporter du PSG, vous nous dites si vous voulez absolument conserver Julian Draxler dans l'effectif cette saison. On verra si ça bouge de ce côté-là. Et puis on va parler d'autres mercato, bien sûr, puisque on va parler dans un instant d'Erling Haaland, qui est la petite pépite norvégienne qui a signé à Dortmund.
Pépite européenne même.
Oui, européenne, tout à fait, 19 ans. Et c'est Dortmund, c'est le futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc les supporters du PSG, on vous attend au 32-16. On sera aussi avec Sophie Serbini, spécialiste du foot allemand, qui nous dira si Haaland peut renforcer l'équipe de Dortmund. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, François Pinet.
23h22 sur RMC, de retour dans l'after, c'est jusqu'à minuit. François Manardo, Damien Perrinel, Jonathan McCarthy sont là. Dans un instant, il y aura Julien Laurence et on débriefera avec lui la 20e journée de Première Ligue, la victoire de Liverpool, de Manchester City, celle de Chelsea, Arsenal. Et puis surtout, on reparlera de l'arbitrage vidéo en Angleterre. Ça commence à faire beaucoup là, beaucoup pour cette journée de championnat. Mais d'abord, l'info mercato de la journée. L'attaquant norvégien Erling Haaland, 19 ans, qui signe au Borussia Dortmund, le futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Il a signé jusqu'en 2024 pour 20 millions d'euros, donc un peu moins qu'un Tousard a priori, mais parce que c'était le montant de sa clause libératoire. Haaland, qui a marqué les esprits cette saison en Ligue des Champions, premier joueur de moins de 20 ans à avoir marqué lors des 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Il a notamment marqué un triplé contre Genk, il avait marqué aussi des buts contre Naples et Liverpool. Est-ce que le PSG doit s'inquiéter avec ce recrutement de Dortmund? Supporter du PSG, on vous attend au 32-16. Il y a notamment François qui va réagir dans un instant, et puis supporter de Dortmund aussi, vous pouvez réagir également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live sur Twitter. On est avec Sophie Serbini, spécialiste du foot allemand en direct. Salut Sophie.
Bonjour François.
Merci beaucoup d'être avec nous. On est contente de t'avoir avec nous. On va parler dans un instant de Dortmund, de est-ce que vraiment ils avaient besoin d'Haaland. Je voulais juste d'abord avoir une réaction peut-être Damien sur le recrutement de Dortmund par Haaland. Est-ce que ça t'inquiète pour le PSG? Parce qu'on l'a vu hein, quand même, Haaland, c'est un ovni sur la planète foot. Il débarque et hop, il casse tout dès le début.
Ouais, après, c'est surtout le choix de Dortmund chez Haaland. Je pense qu'il, à travers ce choix, alors soit il a bien joué le coup, soit il a choisi la facilité. Parce qu'aujourd'hui, Dortmund, en fait, c'est un club qui est en délicatesse avec ses attaquants.
Ouais.
Quand on a Alcacer qui, en fait, qui ne fait plus partie du tout des plans de Favre. Et il joue aujourd'hui avec, en numéro 9, Marco Reus.
Ouais.
Donc, c'est la preuve qu'aujourd'hui, dans le 3-4-3 instauré par Favre, qu'ils avaient besoin d'un attaquant. Maintenant, est-ce que c'est exactement le type d'attaquant que souhaitait Lucien Favre?
Ça, non. On peut demander à Sophie, peut-être.
Pas dit du tout.
Sophie, effectivement, ce recrutement de Haaland, est-ce que c'est plutôt une surprise ou est-ce qu'il va vraiment apporter quelque chose au Borussia?
Alors, c'est pas vraiment une surprise, dans le sens où, effectivement, il cherchait un attaquant depuis maintenant un bon moment. Cet été, Lucien Favre voulait absolument un attaquant, qu'il n'a pas obtenu. Paco Alcacer, en plus de pas forcément vraiment correspondre au système de Lucien Favre, il est aussi énormément blessé. Et Lucien Favre s'en plaint beaucoup. Hein. Il a passé une bonne partie du début de la saison à l'infirmerie. Après, quand il est revenu, il manquait un petit peu de jus. Et c'est vrai que là, on est quand même sur un profil d'attaquant beaucoup plus physique. Et c'est vrai que sans doute que la fragilité physique de Paco Alcacer a beaucoup joué. Est-ce que c'est exactement ce que voulait Lucien Favre? Ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à savoir, mais en tout cas, Lucien Favre voulait une autre option, ça c'est certain.
Mais...
Et un profil différent de Paco Alcacer aussi.
Pour le coup, c'est différent.
C'est assez différent.
Mais Sophie, Lucien Favre, ce que nous disait Paulo Breitner, et puis on a pu le constater nous quand on l'a vu en Ligue 1, et puis à travers les choix qu'il fait à Dortmund et auparavant à Mönchengladbach, c'est que là, un attaquant de 1m90 comme ça un peu costaud, c'est pas forcément
ouais,
sa
mais
came.
attends, Haaland c'est pas que une planche qui attend les ballons.
Bien sûr,
dans la
surface, j'ai pas dit ça François, mais
il est rapide, il sait faire des passes ici.
J'ai l'impression qu'il aime quand même les attaquants un peu plus petits, plus mobiles, très rapides. Ils sont capables d'aller très rapidement devant, tu vois.
Ouais.
Alors j'avais dit à Polo, à Nice il jouait avec Pléa, mais c'est vrai que Pléa en fait
il y avait les deux,
voilà, mais ouais.
Après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup plaint, notamment lors du dernier match que le Borussia Dortmund a perdu en championnat face à Hoffenheim. Il s'est beaucoup plaint que le Borussia Dortmund ne jouait pas de façon assez directe et qu'il manquait vraiment quelqu'un devant pour récupérer notamment les centres d'Achraf Hakimi qui vont nulle part en ce moment. Sur son côté droit, il déborde et personne n'est là pour récupérer le ballon. Et on voyait vraiment la frustration de Lucien Favre au bout d'un moment de n'avoir en fait personne qui était capable d'un peu jouer aussi quand même un peu en pivot. Ouais. Parce que même si c'est pas le style que Lucien Favre aime forcément, c'est un peu avec les joueurs qu'il a qui peuvent beaucoup déborder sur les côtés, le style qu'il pourra avoir par exemple avec Jadon Sancho qui aussi déborde beaucoup et qui centre un petit peu dans le vent en fait malheureusement ces derniers temps.
Ça va mieux d'ailleurs Sancho avec l'entraînement et tout. Ouais, ok. Ouais. On parle plus d'un départ de cet hiver comme non. Ça a été longtemps évoqué. Ok.
Non, de toute façon, il serait pas parti. Enfin, il l'aurait pas laissé partir cet hiver, même s'il a quelques petits problèmes avec le fait de pas arriver trop à l'heure à l'entraînement et tout. Il est recadré. Quand il avait été recadré, il avait fait un très bon match derrière. Au Borussia Dortmund, ça fonctionne pas mal comme ça quand même.
Très bien.
Ça avait été le cas avec Aubameyang, par exemple. Ça avait été recadré 2-3 fois et ça rentrait dans l'ordre à chaque fois.
Mais c'est vrai qu'on se demande pour le PSG, évidemment, on aura François dans un instant, on en parle parce qu'on se dit, bon, Dortmund, on va pas s'inquiéter parce qu'ils ont recruté la nouvelle pépite peut-être du foot européen, parce que derrière, c'est surtout derrière qu'il y a des soucis, non, du côté du Borussia, Sophie.
Alors, il y a des problèmes derrière, mais c'est vrai que, paradoxalement, on parlait plus de l'attaque ces derniers temps en Allemagne, parce qu'en fait, un peu l'idée, c'était que le Borussia Dortmund prendra des buts de toute façon.
Ouais.
C'est un petit peu le jeu du Borussia Dortmund depuis des années maintenant, depuis que la fin de l'ère Klopp s'est effritée, c'est une défense très friable. L'idée, c'est de marquer un peu plus de buts que l'adversaire. En fait, le gros problème de Dortmund cette année, c'est qu'ils ont beaucoup dominé. Ils marquent 1-2 buts, mais ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. Et derrière, ils se font rattraper parce que la défense est friable. Et je pense que le recrutement d'un attaquant, c'est pour être plus fort offensivement, pour un peu combler les lacunes défensives, c'est-à-dire que bon bah à la limite on va gagner 4-3 plutôt que d'essayer de gagner 1-0 en fait. Ils savent qu'ils peuvent pas gagner 1-0. Ouais, c'est impossible, c'est une équipe qui ne peut pas
tenir pour gagner en efficacité. Quoi.
Ils ont quand même marqué voilà. 40 buts, 41 buts, il me semble là, c'est la troisième meilleure attaque derrière Leipzig qui a 48 attaque, ouais, quand même.
Ils ont pris des taux, enfin mais ils ont perdu eux, contre en fait, Paderborn 4-0,
ils en ont
pris
5.
Moi je pense qu'ils sont chauds dépendants.
Encore plus de buts en fait.
Moi, je pense enfin,
par rapport aux occasions qui se créent, c'est ça, parce qu'ils se créent beaucoup d'occasions, ils marquent pas assez, c'est le ratio en fait.
C'est vraiment cette question d'équilibre entre l'attaque et la défense. Il ne faut pas oublier qu'on a un absent de marque depuis un moment et qui avait tout changé avec son arrivée à Dortmund, c'est Witzel. Et là, Witzel ne joue plus, et depuis qu'il ne joue plus, bah, donc du coup, il y a Weigl qui prend la place, qui fait des bonnes prestations, mais en gros.
Weigl qui ne jouera pas contre Paris. Suspendu.
Depuis que Witzel n'est plus là, ben ouais.
Mais Witzel, il sera là contre Paris.
Witzel, oui, normalement, il doit être là.
Ouais. Oui, il sera revenu.
Ouais, donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça.
Ouais, mais après de là, qu'il faut avoir peur. Et quand tu regardes sur le papier les deux effectifs, quand même, c'est pas Haaland qui doit faire changer la dynamique de qui est favori et qui doit donner peur. Tu sais ce qui est intéressant.
Il a des statistiques fantastiques.
Ouais, mais vous savez ce qui est intéressant dans cette question.
Les statistiques, c'est que 28 buts en 22 matchs cette saison.
Ah, c'est énorme.
C'est sûr, c'est avec Salzbourg. Et autrichien, mais il a marqué 8 buts en Ligue des Champions quand même.
Ça me fait penser à l'année dernière contre quand Piontek arrive au Milan AC, qu'il avait marqué, je sais plus, une palanquée de buts. Et puis au final, tu vois, la deuxième partie de saison avait été un petit peu moins convaincante. Mais en fait, cette question de se dire est-ce que l'arrivée d'Haaland fait peur pour le Paris Saint-Germain, c'est simplement le reflet des traumatismes profonds qui entourent l'inconscient collectif autour du PSG. Il y a tellement eu de caca culottes, comme Jérôme Breton dit, ces dernières années en Ligue des Champions, que forcément, t'es à l'affût du moindre signe qui peut te faire douter. Et ça, c'est terrible.
Mais tu sais, c'est une question de dynamique hein, aussi. Et là, tu te dis, Dortmund recrute le joueur que tout le monde voulait. Hop, l'Europe, voilà.
Toi, tu perds Edinson Cavani.
Ça va au-delà de la dynamique.
À Dortmund.
Ça va au-delà. La dynamique, c'est quand on est dans la compétition. Là, on est en pleine période de trêve. C'est vraiment une question de confiance. Je retiens, moi, une partie de ce que vient de dire Jonathan. C'est-à-dire que c'est un club traumatisé sur la scène internationale. Et il suffirait qu'il y ait une paille qui se loge dans leurs pieds pour qu'il puisse y avoir un vent de panique. Même si c'est un gamin de 19 ans, il a des statistiques fantastiques. Tu en as parlé, 8 buts sur 6 matchs de C1, 14 buts en 16 matchs en Ligue autrichienne. Cela dit, il n'est pas le meilleur buteur de la Ligue autrichienne, c'est un autre joueur. Mais oui, ce gaucher, il a quelque chose en plus. Mais de là à faire peur aux Parisiens, là, ce serait vraiment très
inquiétant. Je me méfie toujours des buteurs qui changent de club à l'intersaison. Je me répète, mais regardez Piontek l'année dernière.
Et justement, dans le choix, excuse-moi, de Dortmund, je trouve ça surprenant que Leipzig ait laissé filer le...
Salzbourg.
Non.
Alors, il y a une question de salaire qu'a joué.
Ah oui, que Leipzig, parce que Leipzig, ouais, c'est le même...
En gros, c'était souvent
le même propriétaire. Ouais.
Le salaire est... Alors après, moi, j'ai entendu dire peur de la concurrence, parce que c'est sûr que Werner, il n'allait pas le bouger, de toute façon. Et le seul endroit...
Youssouf Poulsen non plus, exactement, qui est là depuis des années, et qui est vraiment un cadre de Leipzig, c'est un des rares joueurs qui est là depuis que Leipzig est en deuxième division. C'est vraiment un des favoris. Déjà, il a fait une super saison, notamment l'année dernière, et en plus, c'est un des favoris du club.
Et qui a l'ADN du style de jeu Red Bull. En lui, ça, c'est lui, quoi.
Ouais, donc,
Et c'est vrai qu'à Dortmund, il est sûr d'être titulaire, et puis aussi, il y a quand même eu la question du salaire. Le salaire qui a été demandé est très élevé pour un joueur qui n'a finalement pas beaucoup joué au niveau pour l'instant. 8 millions, c'est quand même beaucoup.
Ah oui, c'est beaucoup, oui.
C'est très conservateur en termes de salaire, paradoxalement, alors qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas surpayer leurs joueurs pour le moment.
Ouais.
Et c'est vrai que même de la part de Dortmund, c'est la seule chose qui est un petit peu surprenante, c'est que Dortmund, normalement, ne casse pas sa tirelire sur les salaires. Le joueur le mieux payé, c'est Marco Reus avec 12 millions. Et en fait, il va avoir un des plus gros salaires du club.
Mais son agent, on ne l'a pas dit, hein. C'est Mino Raiola.
Oh, bien sûr.
Ah. Et oui, c'est important. Ouais. Non, mais c'était important de le dire pour
il est bon,
que les gens comprennent. Sophie, quand tu partages, nous, on s'inquiète pas trop ici quand même d'affronter Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. En tout cas, on s'inquiète pas pour le PSG. Tu trouves que c'est normal, le PSG est largement supérieur à cette équipe de Dortmund, même renforcée avec donc ce Haaland.
Alors, je pense qu'effectivement, ça a été dit à un moment, sur le papier, il n'y a clairement pas photo. En plus, effectivement, la défense de Dortmund, c'est assez difficilement concevable de voir Dortmund ne pas encaisser une palanquette de buts face au PSG. Après, c'est vrai que même en Allemagne, on parle beaucoup des échecs du PSG. Je pense que ça reste dans la tête des joueurs de Dortmund qui se disent « on est peut-être moins bon sur le papier ». Mais il y a la place dans le sens où plusieurs équipes l'ont fait ces dernières années. Et c'est vrai que ça reste... Je ne pense pas que le PSG fasse autant peur que d'autres équipes, alors que sur le papier, c'est une très grosse équipe. Mais je pense que s'ils avaient tiré une équipe comme la Juve, Dortmund aurait beaucoup plus peur, par exemple.
Ah bah oui, la Juve, c'est pas la même chose. C'est autre chose.
Voilà. Malgré les stars, ça ne les impressionne pas autant, parce que l'histoire n'est pas là encore. Ouais, et en plus, en Allemagne... Ça fonctionne beaucoup comme ça, hein, quand même, à l'historique. Et c'est vrai que pour l'instant, le PSG n'est pas un club qui est pris au sérieux comme les autres.
Ouais, c'est normal, ce qui est normal.
On va dire du même standing.
Non, je pense que les adversaires des Parisiens savent qu'il y a une forme de friabilité psychologique dans cette équipe quand elle arrive à ce stade de la compétition. D'ailleurs, ça peut représenter un nouveau cap à franchir, même s'ils ont connu les quarts de finale sous l'ère qatari. Mais les traumatismes deux fois qu'ils ont vécu, je pense que c'est encore dans leur il faut qu'ils se débarrassent de cet obstacle Dortmund. Moi, je peux pas vous dire si Dortmund est bien plus fort ou moins fort que United de la saison passée,
mais
United
est sans doute meilleur que United
et au match retour. Rappelez-vous, c'était l'équipe C.
Oui, Manchester United, mais au match
le dénommé Chong,
le PSG a perdu ce match tout seul.
Ils ont cette capacité, maintenant.
On parle du PSG, pas d'histoire, ainsi de suite, traumatisme. Mais il y a d'autres équipes comme ça en Europe. Manchester City, il y a un traumatisme. Hein. Pourtant, ils ont les meilleurs joueurs. Et demain.
Quel traumatisme, City?
Ils ont, avec l'effectif qu'ils ont.
Pas d'histoire,
Avec l'effectif sportif, ils ont pas. Oui, mais
ça. Ça n'a jamais été du standing de la remontada. Ils ont jamais pris.
D'accord, mais après, Monaco va taper City.
Oui, mais c'est un duel. Non, mais c'est pas le même. pas grande, c'est pas aussi grandiloquent. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'était pas une claque aller-retour, fessé cul nu, tu rentres et puis fais de dessert pendant 6 mois.
Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que chez nous que ça arrive. Y a,
ah,
y a
mais bien sûr. Voilà.
Ça arrive beaucoup en France, Damien. Ah, bon. Tu regardes l'historique des Coupes d'Europe sur 65 ans, les clubs français, quand même,
Le Barça, il reste sur deux remontadas aussi.
Bon, 23h35 dans l'after, on est en train de parler du recrutement de Haaland au Borussia Dortmund. Quelques messages sur l'appli Direct Studio. Si Paris doit craindre Haaland, nous dit Phare, eh ben, que dire de Dortmund avec Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria,
bah
c'est
oui.
vrai.
Bah oui.
Mais il y a Olive qui nous dit, vous êtes hallucinant, comment ne pas être méfiant et prudent dans vos propos après la déconvenue Manchester United. On l'a été. Et on va prendre justement François qui est au 32-16, supporter du PSG. Bonsoir François.
Bonsoir à tous.
Bonsoir François.
Alors, est-ce que toi, le recrutement de Haaland, tu t'es dit, tiens, ah mince, c'est quand même le futur adversaire de mon club. Je m'inquiète.
Bon, il est plus de 23 heures, donc on peut se permettre certaines choses. Bon. Qu'est-ce que je m'en fous ?
Très bien.
Non,
sans
déconner. Jonathan a dit beaucoup de choses extrêmement sensées. Un attaquant en pleine bourre qui change de club au mercato d'hiver, qui doit s'intégrer dans un nouveau collectif, qui ne parle même pas l'allemand. Il est norvégien, lui. Il n'est pas autrichien.
Mais ils sont doués en langue, les Norvégiens.
Enfin, bref, il ne parle pas la langue.
Ça sent le vécu, l'Erasmus.
Il rentre dans un collectif avec quand même des égaux. Sancho, ça n'a pas l'air d'être le plus accueillant qui soit. Donc, déjà, il rentre dans un collectif. Il va falloir qu'il s'y adapte. Ensuite, sans déconner, j'entends bien tout ce qui s'est passé, la remontada. L'année dernière, on s'est fumilé par la classe Biron de Manchester qui était venue pour prendre des photos de la Tour Eiffel. Ils n'étaient même pas venus pour jouer, ce qui est encore plus ridicule que la remontada. Mais objectivement, si on a envie d'avoir juste un peu d'ambition, le recrutement d'Haaland, on s'en fout, mais complètement.
Bah, totalement, exactement.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute si on veut être un minimum crédible. Après, est-ce que c'est une bonne chose pour Dortmund ? Peut-être. Mais si ça se trouve, on se dira, ça ne fonctionne pas dans les premiers mois. Il y a quand même pas mal d'attaquants lorsqu'ils signent dans leur club qui n'ont pas cartonné tout de suite. Ronaldo a mis un mois pour s'intégrer à la Juve. On parle quand même d'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Donc peut-être que Haaland, ça ne va pas fonctionner tout de suite, ce qui serait absolument pas une honte pour ce joueur de 17 ou 18 ans. Après, pour le Paris Saint-Germain, au mois de février, de toute façon, il y a tellement de choses qui vont arriver. On va jouer tous les 3 jours à partir de dimanche prochain, c'est ça ? Il va y avoir, on peut s'attendre, il va y avoir de la fatigue. Est-ce qu'il va y avoir des blessures ? Il va y avoir une rotation ? J'ai bien plus peur de tout ça que du recrutement d'un seul joueur. Parce que je vais juste vous en citer un l'année dernière qui était censé éclabousser le 8e de finale, c'est Mbappé. Mbappé qui est un joueur immense, il a prouvé déjà beaucoup avec le PSG et l'équipe de France. Mais objectivement, l'année dernière, le retour, il doit marcher sur l'eau. Il joue face à une classe de gros, des gamins de 17 ans qui
passent. Il a marché sur le ballon.
Ouais. Non mais exactement. Donc ce joueur, on va lui mettre beaucoup de pression, le Haaland. Voilà. Est-ce qu'on en a peur ? Non. Est-ce qu'il faut faire gaffe ? Évidemment.
Voilà. Ça me fait plaisir.
Enfin, soyons ambitieux. La coupe,
il faut faire gaffe. Sans avoir, sans craindre.
Mais comme chaque adversaire. Non, mais ça, à force de ne pas faire gaffe aux adversaires qu'on a en face de nous, qu'on se fait humilier.
Ouais. Si Kylian Mbappé marche sur le ballon et qu'il glisse, et que t'as des ses coéquipiers qui arrivent un quart d'heure, une demi-heure avant qu'ils soient réunis au stade avant le coup d'envoi du match, c'est parce qu'ils les avaient vraiment vraiment pris par-dessus la jambe. Bon. Et ça, tu te fais.
Merci en tout cas, François.
Il est 23h, tu te fais avoir. Non
merci d'être passé sur RMC et on va prendre Bruno tout de suite au 32-16, qui est un supporter de Dortmund. Donc ça sera pas le même discours. Je pense. Salut Bruno.
Bonsoir Bruno. À tous.
Salut Bruno.
Alors, je comprends l'inquiétude du Parisien et en l'occurrence, il ne faut pas qu'il oublie une chose. Le Parisien, c'est que si le PSG joue tous les 3 jours, effectivement, c'est un attaquant qui arrive dans un effectif qui est déjà constitué. Mais Dortmund ne va pas du tout jouer tous les 3 jours. La reprise du championnat, c'est le 19. En l'occurrence, le fait qu'il soit signé avant même le mois de janvier, ça veut dire qu'il va être là dès la reprise. Et qu'au final, le luxe que va avoir Dortmund, c'est qu'ils vont avoir du temps pour l'intégrer, cet attaquant. Alors effectivement, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un attaquant quand le président l'avait annoncé à l'Assemblée Générale des Actionnaires fin novembre. Donc c'est pas du tout une surprise, c'était annoncé, son arrivée. En revanche, moi je suis hyper inquiet sur la capacité de Favre à trouver une solution.
Oui, Sophie, peut-être qu'elle peut te répondre, Sophie.
Après,
Ce qui est compliqué pour Fab, c'est que c'est vraiment un peu pour lui le recrutement de la dernière chance. C'est-à-dire qu'il est sur la sellette depuis des mois et son excuse un petit peu, c'est il manque d'attaquants. Et si ça fonctionne pas là, pour lui, ça va devenir vraiment très compliqué. Parce que c'est un petit peu l'excuse qu'il a en ce moment, c'est on domine, mais on n'est pas assez réaliste. C'est pour ça qu'on prend beaucoup.
Donc là, il n'a plus d'excuses, effectivement.
Notamment beaucoup de matchs nuls. Mmh. Il est obligé de trouver une solution maintenant, il n'a plus vraiment d'autres cartouches, en fait.
Ouais. Hein. Voilà, Bruno.
C'est vrai que c'est pas évident. Il a un peu perdu son vestiaire entre temps, en plus. Donc,
il a complètement perdu son vestiaire, qui est aujourd'hui tenu par Marco Reus et Marcel Schmelzer. Mais et heureusement que ces gars-là qui ont plus de 10 ans au club tous les deux sont encore là pour tenir les choses et faire comprendre que coach ou pas, le club restera là, il faut que le club soit performant. Maintenant, le souci, c'est que Favre, d'abord, il a une inexpérience totale en Coupe d'Europe. Il a 62 ans, c'est sa 5e campagne européenne. Donc, il a très très peu d'expérience là-dessus. L'an dernier, il avait cherché à se débarrasser de Weigl juste avant le mercato et c'est Zorc qui a retenu Weigl d'aller au PSG parce que l'effectif était trop juste. Et on a vu ce que ça donnait avec trois blessés en défense centrale. Mais Favre, surtout, il joue avec un 11 type. Mmh. Donc Favre, à partir du moment où il a les joueurs qu'il a décidé, qu'il a vu dans sa tête et que ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Mais dès qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, il ne se passe plus rien. Et Favre est un entraîneur qui trouve très peu de solutions. Il ne change jamais de schéma. Là, le schéma, il a été changé entre 4-3 parce qu'il fallait réussir à caler les quatre super recrues qu'on a devant. Et puis il y a des joueurs pleins de bourre qui doivent aussi continuer à être sur le terrain. Mais aujourd'hui, le 3-4-3, on voit qu'on n'arrive pas à tenir un score et c'est une catastrophe. En 4-2-3-1, on voit qu'on ne sait pas le tenir si Witzel n'est pas là. Au final, Favre, aujourd'hui, je pense qu'il est complètement largué. Il est en train de cliquer sur sa manette de FIFA pour regarder quels sont les schémas tactiques disponibles pour essayer de trouver un truc qui pourrait fonctionner.
D'accord.
Donc, mon problème à moi, c'est plus de savoir est-ce que Favre va réussir à intégrer cet attaquant-là, plus que est-ce que l'attaquant va être performant tout de suite.
Bon, ça sera une des questions, évidemment. Merci beaucoup, Bruno.
Ciao, Bruno.
Merci d'être passé dans l'after. On va remercier Sophie aussi. Merci beaucoup, Sophie, pour ton éclairage.
Merci.
Et à très bientôt, sur bien quand tu veux. Juste cette petite précision, quand même, pour nous. C'est Yvan qui nous dit ça, qui vit visiblement en Norvège. Un expat breton en Norvège nous dit Haaland se dit Hollande, les gars.
Voilà. Ok, ben merci.
Voilà, donc il faudra dire Haaland. Hollande. Voilà.
Hein, voilà. Erling Haaland.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Voilà, petite précision importante. 23h42, on revient tout de suite dans l'after. On va parler de Première Ligue. Julien Laurence nous rejoint tout de suite. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de problèmes avec la vidéo encore. On reviendra sur la victoire de Liverpool, de Chelsea et de Manchester City. À tout de suite.
RMC. L'after foot, François Pinet.
23h44 dans l'after, encore un quart d'heure avec vous, avec François Manardo, Damien Périnel et Jonathan Macardy. On accueille Julien Laurence. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire avec toi, beaucoup de choses à voir. Suite et fin de la 20e journée de Première Ligue aujourd'hui. Donc la victoire, je rappelle, de Chelsea à Arsenal, on va y revenir, 2-1. La victoire également de Liverpool, 1-0 face à Wolverhampton. Et puis la victoire de Manchester City, 2-0 face à Sheffield.
Attends, et le match de l'année, le match de Leeds?
Ah oui, c'est vrai que tu voulais parler de ça, je voulais en parler un peu plus tard.
Moi je pensais que tu allais parler d'un autre match, Jonathan, ce soir.
Mais non, lequel? Le 4-5 de Leeds, c'est
rien que ça. Non, je pensais à un match en Écosse.
Ah oui, le match entre les Celtic et Glasgow.
On en parle pas là.
Ah, je change, j'allais dépêcher.
Ça faisait 10 ans.
Ce genre de choses ne fait pas rire vraiment. Vous ne savez pas les traumatismes qui peuvent surgir quand on parle de ça
chez certaines personnes.
Steven G is back.
Bon, stop. Julien, vas-y, dis-nous.
Brox, le match. Non, mais Jonathan, tu dois savoir. Non,
ça m'intéresse pas.
Et ça faisait 9 ans que les Rangers n'étaient pas imposés sur le terrain du Celtic. En Écosse, victoire 2-1, on le dit, voilà, ils reviennent à 2 points. Allez. Du Celtic, les hommes de
Steven. Avec un match en moins, en plus à jouer. Hein. Avec un match de moins à jouer pour les Rangers. Donc en cas de victoire, il passerait d'ailleurs en tête de la premiership écossaise.
Mais effectivement, Bielsa aussi a gagné un match de folie, ça fait plaisir.
C'est un truc de fou.
En Championship, 5-4 face à Birmingham. Ouais.
Incroyable. À Birmingham, un but à la 95e minute, le but vainqueur contre son camp de Wes Harding, le joueur de Birmingham, pour donc le Leeds United de Marcelo Bielsa, après une après-midi assez incroyable. En Championship, de toute façon, toute l'après-midi assez incroyable. Et donc Leeds reprend la tête de la deuxième division devant West Brom à la différence de but. Et ils iront bientôt d'ailleurs à Arsenal, hein, en Coupe d'Angleterre, le lundi 6 janvier au soir.
Ouais. Et ben justement, on peut parler d'Arsenal qui a été battu cet après-midi par Chelsea 2-1. C'était le choc de cette 20e journée. Quatrième défaite consécutive à domicile pour Arsenal. J'ai retenu ce chiffre-là. C'était pas arrivé depuis 1959.
C'est ça. Exactement, ouais. Alors on pourrait dire, effectivement, d'un côté, quand tu regardes les résultats, c'est la crise qui s'intensifie un petit peu, même avec l'arrivée d'Arteta. Après, comme disent les Anglais, c'était un match de deux moitiés, en fait. Ils appellent ça Game of Two Halves. C'est vrai que la première période a été entièrement dominé par Arsenal, quasiment, avec le but d'Aubameyang déjà assez tôt dans la rencontre, et puis plein de choses positives dans le jeu, un petit peu comme on en parlait hier soir dans l'émission déjà, sur ce qu'Arteta essaye de faire, va essayer de faire avec cette équipe là dans les circuits préférentiels, dans les sorties de balles notamment, sur le rythme dans le match, l'intensité, les mouvements avec ballon, même sans ballon, l'organisation à la récupération du ballon, le pressing, c'était très intéressant pendant la première période. Et puis après, la seconde période, c'est toute Chelsea, avec le changement tactique dès la demi-heure de jeu de Lampard et le passage en 4-3-3 par rapport à la défense à 3 initiale qui était complètement la mauvaise chose à faire pour Lampard. Et puis cette seconde période avec beaucoup de caractère de la part de Chelsea, et puis ces deux buts en fin de match, 83e et 86e. Oui, Jorginho change le match quand il entre en jeu, mais il faut quand même deux énormes erreurs d'Arsenal, ah oui, une de Leno, ouais, et une de Mustafi, surtout sur le deuxième but, pour donner la victoire aussi à Chelsea. C'est un peu cruel pour Arsenal. Je pense que le nul aurait été mérité pour les deux équipes, mais c'est vrai que ça montre aussi qu'en ce moment, rien ne réussit non plus à Arsenal.
Okay. Leno, il est très régulier dans les erreurs.
Alors, certes, Jorginho, mais enfin, pour moi, c'est... C'est Lampard, parce que Lampard, alors il se plante au début, mais il attend pas 45 minutes pour réagir.
C'est la 33e minute.
À 33, il change.
C'est très très bien.
Et ça, franchement, c'est l'image d'un grand coach. Hein.
Et puis même les changements en cours de match, donc une fois celui de Jorginho effectué, en seconde période, il fait rentrer un jeune arrière droit du centre de formation, qui a été très bon, parce que c'était donc Tomori qui était passé de défenseur central à arrière droit, qui est pas vraiment son poste non plus. Il avait beaucoup de mal dans l'utilisation du ballon, et puis Chelsea a eu beaucoup le ballon en seconde période, et Lamptey, elle leur a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et puis après, Callum Hudson-Odoi, où il fait un petit peu un pari, puisqu'il sort un de ses milieux défensifs entre guillemets Kovacic, quoi, pour un milieu plus offensif, et c'est vrai que ça fait aussi la différence. Et Arsenal a beaucoup reculé, a beaucoup subi. Je pense que physiquement, Arsenal aussi, pour jouer le genre de football qu'Arteta veut qu'il joue, un peu comme avec Klopp et comme avec Guardiola, il faut physiquement que tu sois vraiment au top. Et cette équipe-là, elle n'est pas encore physiquement au top pour faire tout ce qu'Arteta voudrait qu'elle fasse. Et t'as vraiment senti déjà en fin de première période que ça commençait un petit peu à tirer la langue. Et surtout après, lors des 25 dernières minutes, ils ont vraiment souffert physiquement aussi.
Il sort aux îles aussi, Mikel Arteta, alors qu'il mène 1-0. Et c'est peut-être le joueur qui pouvait un peu tenir aussi l'entrejeu de...
T'as été acclamé d'ailleurs aux îles, hein. Ça faisait longtemps.
Il avançait plus, hein. Ouais, et puis il a vraiment été bon encore, une fois encore, comme on disait hier, dans son jeu entre les lignes, la façon dont il a utilisé ses demi-espaces entre les lignes, c'était très intéressant, ouais. Mais sincèrement, il pouvait plus avancer. Il sort à la 76e, il est remplacé par Willock, qui a une énorme occasion à 1-0 pour Arsenal, pour faire le but du break, le 2-0, et son tir passe à quelques centimètres du poteau, et rapidement après, il y a le coup franc où Leno se trouve, le premier but, et puis après le deuxième but en contre d'Abraham.
Et Mustafi qui se fait bien embarquer par le jeu.
Les problèmes défensifs d'Arsenal, c'est pas nouveau, hein. Ouais. Pour l'instant, Arteta ne les a pas réglés, mais il vient d'arriver.
Oui, et puis ils vont prendre un défenseur central au marché des transferts, je pense.
Mais alors, il parle de Saliba, hein. William Saliba, ouais. Ça, c'est des infos qu'on peut vous donner. Le problème, c'est qu'ils le voulaient maintenant. Ils l'ont déjà recruté pour 30 millions d'euros, mais ils l'ont laissé cette année à Saint-Etienne. Et visiblement, Saint-Etienne, il ne veut pas revenir sur les termes du contrat. Donc, ils veulent le garder jusqu'à la fin de la saison.
Ou alors faudra payer une petite rallonge, effectivement.
Bah ouais, non, mais Saint-Etienne, nous avons besoin là de Saliba,
c'est clair.
Et entre guillemets, Saliba ne fait pas une première partie de saison.
Il est pas mal quand il joue au niveau, blessé,
mais il revient de blessure là.
On pouvait attendre. Au début de saison, c'était très poussif.
Ouais.
Et, il faut le dire. Par rapport à ce qu'il nous a montré l'année dernière, ses premiers matchs, les 10 premiers matchs,
ça sera mieux que Mustafi. Là, j'ai peur qu'on s'énerve, Julien. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Là, cette 20e journée a été catastrophique en termes d'arbitrage. Non. On va parler de Liverpool-Wolverhampton. 1-0 pour Liverpool. Liverpool qui finit bien l'année, toujours invaincu, etc. Mais le fait du match, c'est une nouvelle fois l'utilisation de l'arbitrage vidéo pour un but de Wolverhampton qui a été refusé pour quelques millimètres.
Pour un doigt de pied.
Voilà,
un doigt de pied, effectivement, comme Pookie avec Norwich, on en parlait hier soir, comme le but de Brighton aussi, qui celui-là n'a pas eu trop d'influence parce que Brighton a quand même gagné contre Bournemouth, mais pareil, il y avait un but qui avait été refusé pour un centimètre ou deux. Pareil aussi avec le Southampton Crystal Palace, un but pour Crystal Palace, pareil sur un hors-jeu. Et encore une fois, la première ligue a dit, donc, comme je vous le racontais hier, dans son utilisation de la VAR, dès le départ, la Première Ligue a énoncé ses propres règles à elle-même, donc le fait que l'arbitre n'aille pas voir lui-même l'écran, comme on en parlait hier, et aussi d'être intolérant sur les hors-jeux, c'est-à-dire qu'ils ont donc ces lignes qu'ils dessinent un peu comme tout le monde, mais eux, c'est vraiment au pied de la lettre, ça veut dire. Non, mais tu vois, tu pourrais par exemple, on a souvent dit, tu donnes le bénéfice du doute à l'attaquant,
oui,
par exemple.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, ouais. C'est ce genre de phrase qu'on a souvent entendu.
Non, eux, c'est
hors-jeu. Ici, en Première Ligue.
Voilà, binaire.
Alors, la Première Ligue, c'est. Ouais, il est un centimètre, s'il est un centimètre, c'est hors-jeu.
Mais sur le hors-jeu, j'ai l'impression que dans tous les pays d'Europe qui l'utilisent, ils sont tous logés à la même enseigne.
En France aussi, hein.
Ridicule.
Parlez-en à Andy Delors.
À la même enseigne.
Parlez-en à Andy Delors, je crois qu'il y a 4 buts annulés où il est hors-jeu dans un poil, quoi.
Ce qu'il faudrait, je crois qu'on en a parlé peut-être hier ou avant-hier dans l'émission, c'est que arrêter de faire des millimètres ou des centimètres.
Mais alors tu dis quoi,
il faut dire la moitié d'un corps ou un bras.
Regarde la Golden Technology, François.
Vas-y.
La Golden Technology, c'est pareil dans ce cas-là.
Mais je suis d'accord avec toi.
Tu vois, si la Golden Technology, ça joue à quelques millimètres, le ballon il est rentré, pour 5 millimètres il est pas rentré. Ben hors jeu pour 5 millimètres, oui. Tu peux être hors jeu ou pas hors jeu, c'est pareil.
Hors jeu et but, c'est pas l'interprétation de l'arbitre ne doit pas jouer, c'est t'es hors jeu ou t'es pas hors jeu. Il y a but
voilà,
ou il y a pas but.
C'est pas subjectif ou objectif.
Donc, je peux comprendre.
Toi, t'es pas choqué par ces images-là quand tu.
Non, ce qui me choque, c'est qu'on s'en remette à la VAR pour savoir s'il y a hors jeu ou pas hors jeu.
Ah bah là,
sachant,
si, t'es obligé.
Sachant que
là, pour le coup,
non, mais parce que en fait, c'est l'ensemble du raisonnement, on va dire philosophique qui me gêne, c'est qu'en fait, on cherche la perfection. À savoir si c'est oui ou non, mais le problème c'est qu'avec la VAR c'est impossible de savoir si c'est oui ou non, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle le joueur court, ça dépend de la vitesse à laquelle le ballon part, ça dépend au moment où le mec appuie sur le bouton. Donc au final voilà, si le mec court vite et que t'appuies un dixième de seconde plus tôt, il y a plus hors jeu, quoi, tu vois.
Pourquoi pas, après tout. Après, sur la Golan Technology, Julien, le ballon, c'est comme une sortie de touche ou une sortie en corner. Le ballon, il faut qu'il ait entièrement franchi la ligne. Donc, le ballon, lui, il est pas déformé. Le corps d'un être humain, c'est autre chose.
Mais c'est un problème géométrique, leur jeu. C'est comme le but, c'est comme une sortie.
En théorie, un problème géométrique. Mais de juger sur des millimètres, c'est ridicule, parce que les attaquants qui font l'effort de s'aligner, parce que t'es des attaquants qui joue comme ça avec la ligne du hors-jeu, là il faut changer ça dans l'esprit, ça comme dans la technique, il faut changer ça. Il faut que ce soit une partie du corps, là je veux bien, mais pas des millimètres ou des centimètres, c'est ridicule, des pixels.
En fait, on appelle ça pour que les décisions soient plus justes, mais quand on regarde les matchs, on se dit tous, mais qu'est-ce que c'est injuste que ce but soit refusé. C'est ça le paradoxe de la VAR et des émotions en fait qu'elle entraîne derrière.
Oui, parce que normalement, il tire pas forcément à avantage de cette position là au millimètre, le joueur. C'est juste qu'il a bien joué le coup.
Mais même
et on lui supprime son.
Je crois que c'est contre Wolverhampton, c'est ça. Il tire pas du tout avantage de la position initiale de hors jeu. Ouais, c'est ça, exactement. François a raison.
Bon, et sur le but de Liverpool, on peut toujours aussi discuter.
Ah oui, alors le but de Liverpool, oui. Il y a une main
de Van Dijk au départ,
sur la Lana, c'est
aussi.
Assez clair, ouais, je pense que c'est l'épaule, on est d'accord. Sauf qu'il y a une main avant, au moment où Van Dijk fait sa longue passe, il contrôle de la main. Et ça, l'arbitre de vidéo ne le voit pas, Julien.
C'est ça. Alors en fait, l'autre débat aussi, c'est à partir de quelle phase de jeu tu peux remonter avec la VAR. On a vu par exemple cette saison un but pour Sheffield United refusé à Tottenham, où ils étaient remontés à deux phases de jeu avant le but. C'est-à-dire qu'il y avait eu un centre d'abord qui avait été dégagé, le ballon était ensuite revenu, ils avaient marqué, et c'est sur le premier centre où le gars était effectivement en jeu, encore une fois, de pas de beaucoup, et ils étaient revenus donc à deux phases de jeu avant le but. Donc c'est là aussi où tu dois peut-être être plus clair en disant voilà, on remonte à X phases de jeu, et si ça, et à partir de là on est juste pareil, constance.
Je comprends ce que tu dis. Sur ce point et l'ouverture de Van Dijk, dans la mesure où le joueur n'est pas en position offensive, donc c'est pas un contact d'un joueur en position offensive avec son bras ou sa main, là ils ont estimé que s'ils l'ont
vu, pas vu ça,
en revanche, là, c'est autre chose.
Après, les gars, je pense qu'on peut parler de la VAR toute la nuit, là.
Oui.
Moi, j'aimerais vraiment m'attarder sur une prestation vraiment Wolverhampton qui est impressionnant, en fait, Julien. Parce que même Liverpool, c'est-à-dire que comment ils ont mis en difficulté cette équipe de Liverpool, les courses de ces joueurs, enfin c'est incroyable ce qu'on a pu voir ce soir encore.
avec une équipe à prime, hein. Enfin, on peut même dire B de Wolverhampton, puisque trois de ses joueurs titulaires, donc, et 24 heures de moins. T'as raison, ils ont joué 45 heures après la victoire contre Manchester City, contre donc Liverpool, la meilleure équipe du monde quand même, sans Raúl Jiménez, donc, avait été leur attaquant mexicain laissé sur le banc, sans Adama Traoré, l'attaquant espagnol, lui aussi, l'était laissé sur le banc parce qu'il fallait un peu les faire reposer, et même Romain Saïs, dont on parlait hier aussi, qui était très bon en ce moment, lui aussi était sur le banc des remplaçants. Donc, c'était vraiment une équipe, ouais, tu peux dire une équipe B de Wolverhampton,
et pourtant. Pardon, Julien.
Elle a causé beaucoup de soucis à Liverpool avec ce but qu'aurait pu être accordé juste avant la pause de Neto, justement, pour faire un partout. Et puis, t'as raison, d'autres occasions aussi qui se sont créées contre une équipe de Liverpool à son rythme, qui, encore une fois, l'impose, un 50e match de suite à domicile en Première Ligue sans défaite. Ce qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'ils sont dans cette situation. C'était un peu la même chose pour les Invincibles d'Arsenal en 2003-2004. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un niveau où, même sans bien jouer, ils gagnent. Et surtout, avant les matchs, ils savent qu'ils perdront pas la rencontre. Je pense qu'ils sont dans cet état-là de, où tu te sens vraiment invincible, où tu te sens que personne peut te battre. Et ça doit être assez incroyable de jouer dans cet état d'esprit-là.
Et t'as la baraka aussi un peu.
Ouais, plus complètement. Ouais.
13 points d'avance sur Leicester, Liverpool, avec un match en retard à plus à jouer contre West Ham. 14 points d'avance sur Manchester City, qui a battu Sheffield 2-0. On n'a pas le temps d'en parler ce soir de la victoire de Manchester City. But d'Aguero et de De Bruyne. En un mot, tu le résumes, Julien ? City,
le match de City s'est repris tranquillement. De Bruyne, passe décisive et but, et Agüero qui marque aussi pour son vrai retour, puisqu'il avait été sorti très tôt contre Wolverhampton après sa blessure. C'est une victoire juste pour finir l'année qui va faire du bien à Pep, parce que 2019 a quand même été compliqué pour lui, surtout la seconde partie de l'année, quoi, pas trop la première avec le titre de champion, mais la seconde partie de l'année, ça va lui faire du bien quelques jours avant le match du début d'année 2020. Mais c'est vrai qu'il avait besoin de cette victoire aussi.
Merci pour ce mot.
Ciao,
un
Julien.
Petit peu long ce moment, mais Julien. Merci beaucoup, Julien.
Désolé, on est encore dans les temps.
Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt. Prochaine journée, le 1er janvier et le 2 janvier, il y aura notamment Arsenal-Manchester United au programme le 1er janvier. Merci François, merci Damien, merci Jonathan.
Merci,
à
François.
Très bientôt
merci.
Pour l'after. Merci. L'after qui revient demain, 21h. On vous attend évidemment demain à 21h pour le dernier after de l'année d'ailleurs. Ça sera demain. Bonne soirée,
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.